VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Voilà, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 octobre 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous au sommaire du journal. Au Tchad, Saleh Kebzabo, ancien opposant, nommé Premier ministre. Au Mali, le projet de nouvelle constitution renforce le pouvoir du président. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden est en visite dans 3 États de l'Ouest américain avant les élections de novembre. En Iran, nouvelle manifestation ce mercredi. D'après Iran Human Rights, au moins 108 personnes ont été tuées. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le Tchad a un nouveau premier ministre de transition. Il s'agit de l'opposant Saleh Kebzabo. Il remplace à ce poste Albert Paimi Padake, qui a déposé sa lettre de démission hier. Saleh Kebzabo a la mission de former un gouvernement d'union nationale, comme l'a annoncé le général Mahamat Idriss Déby Itno à l'occasion de sa prestation de serment lundi dernier. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
L'information a été confirmée en début d'après-midi à la télévision nationale. Âgé de 75 ans, le nouveau Premier ministre Saleh Kebzabo dirige le parti Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR, un parti d'opposition. Saleh Kebzabo était plusieurs fois ministre sous le régime de Déby père avant de passer à l'opposition. Il a été candidat malheureux de toutes les élections présidentielles sous l'ancien régime au pouvoir. À l'élection présidentielle de 2016, il est arrivé deuxième face à Idriss Déby Itno, ce qui fait de lui une des force politique et joue le rôle du chef de file de l'opposition. Aux élections présidentielles de 2021, Saleh Kebzabo a retiré sa candidature en dénonçant une militarisation évidente du climat politique. Opposant farouche de Déby père, Saleh Kebzabo a rallié armes et baluchons le conseil militaire de transition. Dans le cadre du dialogue national qui vient de s'achever, l'ex-opposant a occupé les fonctions de premier vice-président du comité d'organisation. À ce titre, il a passé plus de temps à Doha au Qatar où il a conduit le pré-dialogue entre gouvernement et politico-militaire. André Kodumadjinga N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Mali, un avant-projet de nouvelle constitution a été remis hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il renforce les pouvoirs du futur président qui détermine la politique de la nation et non plus le gouvernement. Mouamadou Mfa.
Selon la nouvelle constitution qui comporte 195 articles au lieu de 122 pour l'actuelle qui date de 1992, c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. L'actuelle dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le projet maintient la limitation des mandats du président à 2 de 5 ans chacun et les candidats à cette fonction devront avoir 75 ans au plus. Le Parlement ou l'Assemblée ne pourra plus renverser le gouvernement et en sens inverse, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, a indiqué Fousseni Samake, le président de la commission chargée d'élaborer le texte, dans un entretien diffusé par la radio-télévision d'État. Le projet instaure une deuxième chambre parlementaire à côté de l'Assemblée nationale. Il crée également une Cour des comptes. Le texte écarte l'hypothèse d'une fédération qui aurait conféré une forte autonomie au nord du pays, théâtre par le passé de rébellions Touareg pour l'indépendance ou pour un statut particulier. Il y a l'affirmation claire du caractère unitaire de l'État malien, ce qui suppose qu'il n'est pas question que nous ayons un État fédéral, a dit Fousseni Samake. Cet avant-projet est censé être soumis à référendum en mars 2023.
Les autorités indiennes ont mis à l'arrêt ce mercredi l'usine productrice du laboratoire Medin Pharmaceutical dans le nord de l'Inde sous le coup d'une enquête après la mort de 69 enfants en Gambie. Un examen du site a mis en lumière un nombre inacceptable de polluants potentiellement dangereux selon l'OMS qui explique que ces médicaments ont pu être distribués ailleurs que dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. En RDC, un pasteur poursuivi dans une affaire d'enlèvement d'enfants a comparu aujourd'hui en justice à Goma, dans l'est de la RDC. Jean Omari, 45 ans, pasteur de l'église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, revendiquant plus de 4000 adeptes, est jugé avec 3 co-accusés. Il est emprisonné depuis le début du mois à Goma. Le tribunal a renvoyé l'affaire au 19 octobre lorsqu'il rendra sa décision sur la demande de la défense. Les États-Unis et plusieurs pays alliés ont appelé aujourd'hui à une cessation immédiate des hostilités en Éthiopie, condamnant par ailleurs l'implication croissante des forces érythréennes dans le conflit du Tigré. L'Australie, le Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les États-Unis sont les deux parties d'engager des négociations sous les auspices de l'Union africaine dans un communiqué commun. Le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré s'étaient début octobre dit disposés à se rendre à des pourparlers en Afrique du Sud après une invitation en ce sens de l'Union africaine. Un réfugié érythréen soupçonné de trafic d'êtres humains est en passe d'être extradé vers l'Italie après avoir été arrêté dans un aéroport éthiopien alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol à destination de l'Australie, a déclaré la police italienne ce mercredi. Gebre Medine Temeshen Gebru, 35 ans, est accusé d'avoir participé à la gestion d'un réseau de passeurs qui amenait des personnes d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan en Libye, où les migrants embarquaient sur des bateaux à destination de l'Italie, a indiqué la police dans un communiqué. Le débat très attendu sur le méga projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie a été reporté à décembre après une brève audience ce mercredi à Paris, lors de laquelle les ONG ont refusé une médiation et répété leur demande de suspension des chantiers. Le tribunal judiciaire de Paris a fixé les débats au 7 décembre prochain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden se rend dans 3 États de l'Ouest américain ce mercredi afin de promouvoir son bilan à un peu moins d'un mois des élections législatives. Abdourahman Dia.
Sa première étape sera à Camp Hale, dans le Colorado, un ancien site d'entraînement de l'armée américaine pour la Seconde Guerre mondiale qu'il va classer comme monument national protégé. Il va donc satisfaire une revendication de longue date des ténors du Parti démocrate dans cet État. Joe Biden va également annoncer des financements pour répondre aux problèmes de sécheresse de la région liés à un vaste programme d'investissement dans l'environnement et de dépenses sociales adopté par le Congrès cet été. Il se rendra ensuite en Californie et dans l'Oregon pour vanter ses réformes sur le coût de la vie et sur les infrastructures. À un mois des élections de mi-mandat, le président américain multiplie les déplacements pour mettre en exergue son bilan, pour aider les démocrates à garder au moins le contrôle de l'une des deux chambres du Congrès américain. Toutefois, il ne se rendra pas dans 2 États de l'Ouest où les élections pour le Sénat s'annoncent particulièrement disputées, à savoir l'Arizona et le Nevada.
En Iran, les forces de sécurité ont tiré du gaz lacrymogène pour disperser une manifestation d'avocats. Depuis un mois, le mouvement de contestation déclenché par la mort d'une jeune kurde iranienne est toujours vivement réprimé par les autorités. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
Femme, vie, liberté ont scandé à Téhéran des avocats à l'occasion de leur première participation au mouvement avant d'être dispersés par des gaz lacrymogènes. Selon l'organisation Iran Human Rights, au moins 108 personnes ont été tuées. Malgré des centaines d'arrestations, de nouveaux rassemblements ont été organisés à travers le pays, notamment dans la province du Kurdistan, d'où était originaire la jeune femme et où la répression a été sévère, d'après des ONG. L'autorité judiciaire iranienne a confirmé la mise en accusation de 60 personnes à Téhéran et de 65 autres dans la province d'Hormozgan, arrêtées lors de récentes émeutes, sans préciser les chefs d'inculpation.
Les nouvelles restrictions imposées par les États-Unis sur l'octroi de visas aux talibans sont un obstacle aux relations entre les deux parties, a réagi aujourd'hui le gouvernement afghan. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait annoncé mardi des restrictions sur l'octroi de visas aux actuels et anciens membres des talibans et d'autres individus jugés responsables de ou complices de la répression contre les femmes et les filles en Afghanistan. La communauté internationale a fait de la réouverture des écoles secondaires pour filles une condition sine qua non de la reconnaissance du gouvernement taliban. Et puis, plus de 50 pays réunis ce mercredi au siège de l'OTAN à Bruxelles ont promis de fournir à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense antiaérienne et une assistance militaire solide et durable après les frappes massives de la Russie sur ce pays. Assis à côté de son homologue ukrainien Oleksiy Reznikov, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a ouvert cette réunion des ministres de la défense des pays membres de l'OTAN et de leurs alliés du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine en condamnant les tirs de missiles russes contre des cibles sans objectif militaire ces derniers jours en Ukraine. Et puis le bras de fer entre le gouvernement et les grévistes dans le secteur pétrolier en France s'est durci mercredi, l'exécutif lançant les premières réquisitions de personnel. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Au Sénégal, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1% en septembre 2022, selon l'indice harmonisé des prix à la consommation comparé au mois d'août. Sur trois mois, l'indice a connu une variation de 7,3% selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie basée à Dakar. La NSD précise que ces variations sont principalement dues à la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées de plus 1,8%. L'Afrique et le Moyen-Orient ont gagné 54 millions de nouveaux gamers selon le rapport Global Games Market Report. Avec désormais 488 millions de joueurs, les deux régions cumulent 15% de parts de marché d'une valeur d'environ 7,1 milliards de dollars de l'industrie du jeu vidéo. L'OPEP a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour 2022 et 2023 dans un rapport publié ce mercredi en raison du contexte économique incertain. L'OPEP explique cette baisse par l'extension des restrictions anti-Covid dans certaines régions de la Chine, les défis économiques des pays de l'OCDE et la pression inflationniste dans certains pays clés. Elle s'attend aussi à ce que l'inflation se poursuive avec des tensions sur le marché du travail.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite des matchs de la quatrième journée en Ligue des Champions ce soir en Europe.
Oui, le FC Barcelone n'a pas droit à l'erreur contre l'Inter Milan. Une victoire permettrait au Barça de continuer à rêver de la qualification dans un groupe C, dominé par le Bayern Munich, tout proche d'atteindre les huitièmes. Le Bayern se qualifierait en cas de succès face au Victoria Plzen. Outre le Bayern, deux autres équipes sont bien placées pour valider dès ce mercredi leur ticket pour les huitièmes, Naples et le FC Bruges. Naples du Camerounais Frank Zambo Anguissa et du Nigérian Victor Osimhen reçoit l'Ajax. Un nouveau succès napolitain ferait aussi les affaires de Liverpool de l'Égyptien Mohamed Salah et du Guinéen Naby Keïta, actuel deuxième au classement au moment de se déplacer à Glasgow chez les Rangers. Le groupe D propose un déplacement de Marseille de l'Ivoirien Eric Bailly sur le terrain du Sporting Portugal et un duel Tottenham-Francfort, quatre équipes qui peuvent toujours finalement rêver des huitièmes.
Justement, hier, le Real Madrid, champion en titre, s'est qualifié pour les huitièmes.
C'est grâce à son résultat nul face au Shakhtar Donetsk, un but partout à Varsovie. Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez, tenu en échec à Copenhague, s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale à la faveur du match nul de Séville contre le Borussia Dortmund, un but partout. Chelsea a battu 2-0 l'AC Milan, réduit à 10 à San Siro et s'est emparé de la tête du groupe E. Le Paris Saint-Germain a concédé un nouveau match nul, un but partout, face au Benfica.
Nouveau témoignage contre le président de la Fédération française.
De nouveaux témoignages anonymes d'ex-salariés de la Fédération française de football évoquent un comportement inapproprié de son président Noël Le Graët. C'est ce que révèle une enquête de Radio France que l'intéressé conteste fermement, dénonçant des allégations mensongères et malveillantes. L'enquête, qui cite anonymement plusieurs anciennes employées, fait état d'un climat sexiste et des comportements misogynes à la FFF, voire de cas de harcèlement. Dans un de ses témoignages, une ex-salariée dénonce les manières lourdingues de Noël Le Graët comme des invitations à répétition pour venir dîner avec lui. Une ancienne haute dirigeante évoque pour sa part un déplacement en 2016 où Le Graët lui aurait posé la main sur la cuisse. Cette mission d'audit déclenchée le 16 septembre fait suite à l'apparition dans le magazine SoFoot d'un article mettant en cause la Fédération française de football et son président, accusé d'avoir adressé des SMS à caractère sexuel à des employés. Le patron de la FFF, 80 ans, en poste depuis 2011, est depuis dans la tourmente.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. C'est un vétéran de la politique tchadienne qui a été nommé Premier ministre du gouvernement de transition. Saleh Kebzabo, qui a été ministre et opposant sous Idriss Déby Itno, a été choisi par le président de transition, Mahamat Déby Itno. Il aura la charge de former un gouvernement d'union nationale. Pour parler de cette dernière actualité, Abdourahmane Dia a joint N'Djamena, l'analyste politique, et Varis Ngarlem Toldé.
Il a été le vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Il avait secondé le ministre des Affaires étrangères au comité technique de négociation à Doha. Donc il a mené de bout en bout la préparation et les travaux du dialogue. Donc vraiment c'est un poste mérité, même si on peut parler de récompense pour certains, c'est vraiment la personne qu'il faut à ce poste-là. Et on lui reconnaît quand même cette capacité et ce privilège d'occuper ce poste parmi plusieurs candidats qui ont été proposés.
Et justement, selon vous, qu'est-ce qui a plaidé en sa faveur? Qu'est-ce qu'il a de plus que d'autres, que les autres candidats, par exemple?
Vous savez, il a été de bout en bout aux négociations de Doha, donc proche des politico-militaires. C'est vrai que Gabo a été l'un des fondateurs de Wakitama, donc cette coordination des partis politiques et des associations civiles. Il est également chef de parti, donc il est avec les chefs de parti, les 217 partis qui comptent le pays. Et ça veut dire qu'il est donc le maillon, je dirais le relais entre le pouvoir et les politiques communautaires et les associations de la société civile ainsi que les partis politiques. Ça fait que tout cela, mis sur son expérience politique, il était parmi les premiers candidats aux premières élections présidentielles déjà. Il a été aussi opposant au père, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ce qui veut dire que tout cela plaide en sa faveur parce qu'il connaît mieux les Tchad, il connaît mieux les dossiers tchadiens, il connaît mieux les acteurs de la scène politique tchadienne.
Alors, en tant qu'observateur de la scène politique tchadienne, quelles sont vos attentes pour ce gouvernement d'union nationale qu'annonce le président de la transition?
Bon, en parlant du gouvernement d'union nationale, comme ils l'ont promis, il faut faire revenir d'abord tous ceux qui n'ont pas pris part au dialogue, notamment Wakitama, les transformateurs et bien d'autres. Et puis, les mouvements non signataires de l'accord de Doha, et on veut parler de réconciliation nationale. Mais les défis, vous savez, les défis sont nombreux à l'heure actuelle, où les conflits communautaires naissent ça et là, au moment où la crise énergétique est à son comble, où l'inondation est un problème majeur, tant dans la capitale que dans le reste du pays. Mais le problème le plus important, le défi majeur, c'est la réussite des élections qui pourront permettre le transfert de pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu.
C'était le docteur Evariste Ngarlem Toldé de l'Université de N'Djamena.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la transition au Tchad prolongée de 2 ans. Le général Mahamat Déby Itno a prêté serment lundi en tant que président d'une transition de 24 mois, à l'issue de laquelle il pourra se présenter comme candidat à la présidentielle. C'est l'une des principales conclusions du dialogue national inclusif et souverain qui a pris fin le week-end en l'absence d'une bonne partie de l'opposition et de la société civile qui dénonce une succession dynastique du pouvoir. Comment analyser la prolongation de cette transition au Tchad? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Conflit interethnique dans le Kwamout, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Les autorités préparent un dialogue entre les parties après avoir affirmé qu'elles contrôlent la situation. Au moins 186 personnes ont été tuées en près de 5 mois dans des affrontements entre les Yaka et les Teke. Des dizaines de milliers de personnes ont fui leur maison. Eddie Isango a joint à Kinshasa le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.
Aujourd'hui, la situation est globalement revenue au calme après l'intervention des forces de sécurité. L'urgence maintenant pour le gouvernement, c'est de nous appeler à apporter de l'assistance aux populations déplacées qu'on compte par une bonne dizaine de milliers, par plusieurs dizaines de milliers plutôt. Le président de la République, au cours du Conseil des ministres du vendredi, avait demandé au gouvernement, les ministres sectoriels concernés, de s'y appeler principalement le ministre des Affaires humanitaires, tandis que le ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice devait s'assurer à rétablir l'ordre public et à s'assurer que les faits infractionnels sont documentés pour que ceux qui ont été à la base de ces violences puissent répondre devant la justice.
Qu'en est-il alors de l'océan ou de deux camps qui se battaient, qui se seraient réfugiés dans des forêts?
Pour ceux qui sont en forêt, en tout cas, il y a un processus de ratissage qui est en cours parce qu'il est question d'endiguer totalement la menace. Mais parallèlement à cela, il y a des réunions de concertation qui se tiennent sous les auspices du ministère de l'Intérieur pour s'assurer qu'il y ait une harmonisation de vue entre les chefs coutumiers Teke et Aka.
Les gouvernements parlent d'une main noire derrière ces affrontements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est?
La main noire dont parle le gouvernement, c'est parce qu'il y avait des rapports documentés par les services notamment de renseignement au regard des différents témoignages recueillis par les populations victimes. Les modus operandi des assaillants, l'emploi des machettes et d'autres armes, c'est des choses qui ne sont pas connues dans le secteur et qui appellent à des enquêtes approfondies. Et donc, c'est ce que nous appelons main noire et pour lequel les services sont en train de travailler après les différentes arrestations qui ont été opérées pour recouper des informations qui pourront donner une identification à cette main noire qui agit derrière ces affrontements meurtriers.
Qu'en est-il alors du nombre de personnes tuées et même des déplacés? Il semble qu'ils seraient déjà arrivés à Kinshasa.
On parle des déplacés qui seraient certains. On m'a parlé même de Brazzaville et d'autres dans le Bandundu. Il y a plusieurs, en tout cas, il y a au moins 50 000 déplacés, d'après les statistiques qui nous ont été parvenues.
Qu'est-ce qui est fait pour que les dialogues reprennent entre les deux ethnies qui se côtoient, qui vivent côte à côte depuis de longues années?
Le gouvernement réunit les communautés autour du ministre de l'Intérieur et je pense que les discussions ont assez avancé. C'est ces discussions qui vont nous apporter les résultats pour restaurer la pacification entre les deux communautés qui a toujours existé.
Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Côte d'Ivoire, la commission électorale se prépare aux futures échéances électorales. La révision de la liste électorale démarre le 19 novembre et va s'achever le 10 décembre sur toute l'étendue du territoire national. La CEI a eu une rencontre avec les partis politiques. Les détails avec Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
Pour la révision de la liste électorale, la CEI, la Commission électorale indépendante, mise sur la transparence. Ibrahim Kuibière, président de la CEI, au cours d'un échange avec des partis politiques.
Chaque fois que nous entreprenons de faire une opération électorale, il est de bon aloi que nous rencontrions ceux qui sont nos partenaires autour de la matière électorale. Comme nous allons avoir bientôt des élections, il est bon que la liste qui va servir de base, la liste qui va conférer la qualité d'électeur, soit établie maintenant. Voilà pourquoi nous commençons par la révision de la liste électorale. Pour être sur la liste électorale, qui est concerné? Ce sont les Ivoiriens qui sont concernés par la révision de la liste électorale. Les Ivoiriens, c'est lui qui en fait la preuve. Mais les Ivoiriens qui résident en Côte d'Ivoire comme les Ivoiriens qui résident à l'étranger.
La CEI a demandé aux partis politiques de relayer l'information auprès de leurs bases. Réaction des partis politiques, d'abord Brahima Doumbouya du RHDP, parti au pouvoir.
Nous nous sommes accordés sur l'essentiel. Nous repartons donc satisfaits et le reste, c'est d'aller donc informer notre hiérarchie, notre parti et ensemble, nous allons voir comment nous allons inonder le terrain.
Ensuite,
Reine Gado, présidente de la plateforme des partis républicains, c'est une très bonne démarche. Nous comptons, après cette conférence, retrouver nos militants afin que tout un chacun puisse se faire enrôler.
Saturnin Boli Gavdi, premier vice-président de la commission électorale et application numérique du PPAC. Nous pensons que nous sommes partie prenante. Il s'est félicité de notre présence. Et c'est ainsi que nous sommes heureux que nous allons nous associer.
Docteur Blé-Pierre, président de l'AFD, nous avons été édifiés par le président de la CEI. Je crois qu'il nous a donné les outils qu'il fallait pour aller rencontrer les populations et les sensibiliser.
Selon la commission électorale indépendante, les données de la liste de 2020 enregistraient 7 495 082 électeurs. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Ici aux États-Unis, le Musée national d'art africain à Washington DC a annoncé la remise officielle de 29 bronzes de la région du Bénin au Nigeria, une première pour l'un des musées du Smithsonian qui n'avait jamais restitué des œuvres à un pays africain. Concernant cette restitution, Nastasie Peteuil a eu un entretien en avril dernier avec Inger Blankenberg, la directrice du Musée national d'art africain à Washington DC.
La remise des titres de propriété a été officialisée lors d'une cérémonie hier mardi après des mois de discussions menées par la directrice Nager Blankenberg qui explique pourquoi elle avait retiré ses œuvres du musée dès son arrivée.
Je voulais les enlever, c'est parce que quand je les vois, ça me blesse personnellement. Je pense que quand les gens du diaspora ou... les gens voient les choses dans les musées qui ne doivent pas être là. C'est vraiment c'est une sorte de violence. Ça fait du mal, physiquement et mentalement. Ils ne doivent pas être ici parce que c'était un enlèvement violent et sans esprit. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que c'est pas notre droit de les présenter au public à ce moment.
Cette restitution est la toute première du genre car aucune entité du Smithsonian n'avait jamais entrepris de renvoyer en Afrique des objets d'art pillés. Il aura fallu l'intervention de Nager Blankenberg pour faire bouger les choses dans cette institution vieille de 176 ans.
Si je veux créer un espace pour tous les Africains, les descendants de n'importe qui d'être ici et pas seulement les Européens, c'est vraiment important qu'on n'a pas des choses là qui fait les gens penser qu'ils ne doivent pas être là.
Alors, que pense-t-elle de ces musées européens qui s'opposent à restituer des objets pillés depuis l'époque coloniale ? La directrice sud-africaine a un avis bien tranché sur la question.
Je pense qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'excuses pour ne pas retourner des objets. Et une des excuses, c'est que les musées africains ne sont pas prêts pour les recevoir. C'est pas à nous de juger. Je pense que la grande question, c'est qui décide ? Oui, c'est beaucoup de fois, c'est les musées du West qui décident. Ça, c'est la manière dont on devrait présenter les objets. C'est vraiment une question de pouvoir. Qui a le pouvoir de décider et qui veut peut-être réétablir peut-être plus des relations un peu plus égalitaires.
Inger Blankenberg, directrice du Musée national d'art africain ici à Washington.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.